Alors, nous sommes un peu, il est un peu tard. Donc, deuxième partie de cette confession pascale. La confession consiste à examiner sa conscience pour la présenter devant Dieu, pour recevoir le pardon. Et donc, les ministres de Dieu reçoivent. Les ministres de Dieu reçoivent donc un pouvoir qui est lié à la grâce d'union hypostatique. Jésus est le Verbe de Dieu. Et lorsque les pharisiens, les sadducéens, c'est-à-dire les pharisiens, c'était les juifs observants qui scrutaient la loi de Moïse intensément. Les sadducéens, c'était ceux qui entouraient le pouvoir hiérarchique des prêtres du temple de Jérusalem. Et les notables des pharisiens et les notables des sadducéens constituaient le Sanhédrin. Et donc, les publicains, eux, avaient pactisé avec l'occupant. Les zélotes étaient ceux qui luttaient contre la présence romaine. Donc, parmi les 12 apôtres, Jésus choisit des pharisiens, sadducéens probablement pas, ou peut-être. Il a choisi un publicain, dans la personne de Simon Lévi, et des zélotes. Et il change le sacerdoce. Le sacerdoce lévitique du frère de Moïse, Aaron, passe à tout homme qui reçoit l'ordination sacrée et une participation à la grâce d'union dans la personne du Verbe qui est Jésus. C'est pour ça qu'on dit du prêtre qu'il est un autre Christ et que, en ce qui concerne les péchés des prêtres, Dieu dit à des saints et des saintes qu'il faut, enfin, c'est lui qui punira. Plus particulièrement, et qu'il faut faire attention à ne pas dénigrer trop les prêtres. Et donc là, en ce moment, comme on a des prêtres criminels, il y a un dénigrement, mais qui va au-delà. D'ailleurs, le pape François a été très logique aujourd'hui, impressionnant, hein, il dit, puisque vous n'êtes pas condamné définitivement, qu'il y a un appel, je ne reçois pas votre démission. Mais le cardinal Barbarin, épuisé par la persécution dont il fait l'objet, eh bien, va de toute façon se reposer et laisser l'administration du diocèse à son vicaire général. Et donc, le pouvoir de pardonner les péchés est un pouvoir qui est propre à Dieu uniquement. Et donc, les pharisiens, qui sont des juifs observants et qui scrutent la loi de Moïse d'une manière très scrupuleuse, avec des coutumes anciennes et un peu nouvelles pour d'autres, eh bien, savent très bien, lorsqu'ils entendent Jésus, tes péchés sont pardonnés, que c'est un pouvoir divin, et ils en sont indignés, choqués, étonnés. Sans parler des sadducéens qui avaient fini par, avec les prêtres du temple de Jérusalem, à ne plus croire en l'existence de l'âme, et à considérer que on n'avait qu'une vie terrestre et qu'on mourait comme les animaux. Il n'y avait pas de résurrection des morts, qu'il n'y avait pas de vie après la mort. C'est quand même très matérialiste, en fait. Mais en même temps, ils considéraient que Dieu nous donnait une existence uniquement temporelle et corporelle. Et ils ne croyaient pas non plus dans l'existence des anges. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, saint Paul, inspiré par l'Esprit Saint un peu taquin, alors qu'il était arrêté et traduit devant un gouverneur romain, dit « Je suis traduit devant le tribunal des païens parce que je crois en la résurrection des morts. » Et il divise les sadducéens qui étaient présents, partisans de la hiérarchie ecclésiastique du temple de Jérusalem et à moitié hérétiques et profitant de leur aura de service du temple, et les pharisiens qui étaient là, qui eux croyaient en la résurrection des morts. Donc en fait c'était un des leurs qui était accusé, Et ils oubliaient Jésus, et là tout d'un coup, ils se sont dit, ah oui, quand même, il est pharisien, comme nous. Et les Sadducéens disent, mais c'est pas le problème, mais si. Parce qu'en fait, prêchant la résurrection de Jésus, il a pas parlé de Jésus, il a parlé de la résurrection. Donc ça a divisé les Sadducéens et les pharisiens qui étaient là. Bon. Et donc, ce qui indigne les deux, c'est le pardon des péchés. Et le Messie était un homme providentiel, mais de là à ce qu'il soit le Fils de Dieu et Dieu lui-même, il y avait un pas. Et le pardon des péchés, c'est le propre de Dieu. C'est la raison pour laquelle ceux qui prient sincèrement Dieu et regrettent et reconnaissent leur tort devant Dieu, seul à seul, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Par un regret parfait. Ce qu'on appelle la contrition parfaite. La contrition imparfaite ou attrition, eh bien, peut nous mériter un pardon, mais il y aura probablement, après la mort, plus de purgatoire, si vous voulez, de se purger du manque de regret profond et total. Théoriquement, c'est la contrition parfaite qui remet les péchés totalement, mais pas forcément la peine du péché, les conséquences du péché. Lorsque nous nous confessons par le sacrement de confession, on recourt à Jésus-Christ et on lui demande par les mérites de sa passion et de sa croix et de sa résurrection de nous pardonner nos péchés. Et donc c'est une grâce très directe et non pas seulement la grâce offerte à tous les hommes de bonne volonté qui regrettent leurs fautes. Un baptisé qui est en train de mourir et qui n'a pas de prêtre présent, mais fait une prière de regret de ses fautes qui peut lui valoir la même grâce que la confession. Seulement il faut bien qu'il n'y ait pas de prêtre et qu'il ne puisse pas appeler de prêtre. S'il a l'occasion de parler à un prêtre et de se confesser à un prêtre, alors il manque de piété à ne pas l'appeler. Et on peut même douter de sa contrition, de son regret. Ce qui fait que, dès qu'un prêtre est là, nous devons nous confesser à un prêtre. Pourquoi ? Parce qu'il représente Jésus-Christ. Cette confession à Dieu se manifeste par le secret de la confession, qui est jalousement gardé par l'Église, et qui est puni très sévèrement. C'est-à-dire qu'avant que vous disiez à un prêtre qu'il a trahi le secret de confession, renseignez-vous quand même s'il n'a pas su ce qu'il dit par un autre moyen que la confession, même si c'est imprudent de la part d'un prêtre de parler de quelque chose qu'il a aussi entendu en confession. Mais si c'est un fait quasi public, vous ne pouvez pas lui reprocher d'en parler même s'il l'a entendu en confession. En tout cas, nourrissez-vous de beaucoup d'arguments avant de reprocher ça à un prêtre, parce que normalement, il doit être déchu de l'exercice de son ministère s'il trahit le secret de la confession. Donc il va défendre jalousement la vérité, et si vous êtes approximatif dans votre accusation, vous aurez un retour de bâton aussi violent que la gravité de l'accusation. Mais il arrive que des prêtres trahissent le secret de la confession, mais d'expérience, c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, le pouvoir civil voudrait briser ce secret de confession sous prétexte de droit pénal, alors que ce n'est sans doute pas ce qu'on a dit en confession qui sera une preuve absolue pour un procès pénal. Certainement pas. L'examen de conscience est donc devant Dieu. Et vous pouvez, sans prêtre, vous confessez au sens large et parlez à Dieu. Mais il y a donc cette grâce générale que Dieu donne à tout homme, mais il faut savoir réfléchir sur ses péchés. La grâce du sacrement de confession a cette force qu'elle compense la faiblesse de votre regret et qu'elle est très puissante et disproportionnée par rapport à votre regret, parce que c'est un des sept sacrements. Et donc il va profondément, au nom des mérites de Jésus, vous libérer de votre culpabilité et vous libérer des peines et des réparations, mais là, suivant votre piété, et vous assurer de la vie éternelle. Seulement, il y a des personnes ou scrupuleuses ou insouciantes et qui ont besoin d'être guidées. Pendant des siècles, beaucoup de personnes ne savaient pas écrire ou même n'avaient pas de quoi écrire, car des feuilles ou des parchemins coûtaient très cher. Il est bien évident qu'ils n'écrivaient pas leurs péchés. On n'allait pas gâcher un morceau de papier ou de parchemin pour écrire ses péchés, d'autant plus qu'on devait les détruire après. Et donc, c'est par pure mémoire qu'on s'est confessé pendant des siècles. Les scrupuleux, donc, ou les personnes très attentives, qui évitent le scrupule, on peut leur, ont un papier. Pour les scrupuleux, on essaye de leur interdire. Pour ceux qui ne sont pas scrupuleux, si ça peut les aider et les apaiser, pourquoi pas. Le scrupuleux, c'est celui qui confesse des fautes et qui revient à une autre confession sur ses fautes. Une fois, pour donner telle ou telle chose qu'on n'aurait peut-être pas dit totalement. Une deuxième fois, là, ça commence à mal se passer. Et la troisième fois, ça va plus du tout. Vous voyez ? Et la quatrième fois, on vous interdit de confesser à nouveau ses péchés. Sous peine de péché. Et pourquoi ? Mais parce que vous manquez en l'amour de Dieu, vous manquez en la providence divine, vous manquez en, de confiance en, en son pardon. Et votre orgueil est plus actif que la certitude qui vous est donnée. Alors si vous avez une maladie psychiatrique, une névrose, voire une psychose, mais une névrose, c'est une peur de quelque chose qui, alors que vous êtes encore un peu raisonnable. La psychose, vous êtes totalement déraisonnable et cette peur est déraisonnable. Et donc vous pouvez très bien avoir très peur de l'enfer, très peur du manque de pardon de Dieu, très peur de tel ou tel péché. Et donc le prêtre à ce moment-là, ou sera sévère, ou sera très doux, si, avec la manière dont il sent votre inquiétude. Alors vous avez des prêtres qui n'ont pas beaucoup de psychologie, et donc ils vont vous envoyer dans les cordes, ou qui vont ou même être trop doux et laisser un scrupuleux se torturer pendant des années à confesser toujours les mêmes péchés. Alors, voyez-vous, ça c'est, comment dire, sachez que l'important, ce n'est pas la qualité du prêtre, c'est pas qu'il soit désagréable, ronchon, de mauvaise humeur ou de très bonne humeur ou un saint, on se confesse à Dieu. Il est difficile de faire abstraction de la personnalité du prêtre, mais on se confesse à Dieu. Et donc pour examiner sa conscience, il y a divers moyens. Il y a les 10 commandements qui sont le moyen principal. Ensuite vous avez les vertus, et ensuite vous avez les béatitudes. Le moyen des commandements est simple et clair et correspond très souvent à la psychologie générale parce que les 10 commandements ont été rappelés par Moïse mais correspondent à ce qui nous est donné au fond de notre âme et ce qu'on appelle la Saint-Dérèse, éviter le mal et faire le bien. Or, nous avons tous de quoi croire en l'existence de Dieu et donc rentrer en relation avec lui d'une manière ou d'une autre. Le premier commandement, c'est parler à Dieu. Le deuxième commandement, c'est de craindre d'être irrespectueux avec Dieu, d'être présomptueux, d'être insolent ou d'abuser de sa bonté et de sa miséricorde et de ses prévenances et des grâces qu'il a pour vous, en jurant, en méprisant son autorité, mais aussi sa bienveillance et sa providence sur vous. Le troisième commandement, c'est de mépriser la prière publique et le repos public. Or, la nature humaine est ainsi faite que nous avons besoin les uns les autres du repos des uns des autres. Et c'est une malédiction de travailler quand dans un pays le travail du dimanche devient important. Par faiblesse, on a ouvert les foires, on a ouvert les restaurants le dimanche. Mais sachez que dans les pays très fervents, eh bien les gens achètent la nourriture le samedi et cuisinent le dimanche. Mangent en famille le dimanche. Mangent entre amis le dimanche, mais ils préparent leur nourriture. Alors je ne vais peut-être pas faire le puritain ou l'amiche et vous dire que vous péchez si vous allez à un restaurant le dimanche, parce que sinon, vu le nombre de fois où j'ai été invité au restaurant après une messe le dimanche, je serais un hypocrite particulièrement retors. Toutefois, le troisième commandement, c'est le repos, c'est de savoir combien de temps vous allez passer la tondeuse pour ceux qui ont une maison secondaire, combien d'heures vous allez faire une conclusion d'avocat ou un travail non servile, une traduction, par exemple, pour des gens qui auraient comme pour métier le traducteur. Mais par contre, voyez-vous, est-ce que si quelqu'un fait son ménage un dimanche pendant 4 heures, pêche contre le repos dominical et la sanctification du dimanche? Prière publique, il est allé à la messe avec ses frères et sœurs. Il a prié. Et le moyen que donne l'Église pour sanctifier le dimanche, le moyen ordinaire, c'est la messe. Si on ne peut pas assister à la messe, il faut se recueillir et prier plus longtemps que les autres jours. Si vous êtes loin d'une messe, si vous êtes à l'hôpital, si vous n'avez pas l'occasion d'assister à la messe, qui est le premier moyen de sanctification du jour du Seigneur, si vous avez un missel, vous pouvez lire l'épître et l'évangile. Vous avez un livre de psaumes, de spirituel, priez le chapelet. Restez aussi en silence et pensez à la présence de Dieu, pensez au Christ, à sa présence, à la présence de la Vierge Marie, à la présence de votre ange gardien, à votre vie éternelle, à pardonner vos ennemis. Toute activité profondément et vraiment spirituelle sanctifie. Et donc, le dimanche, vous êtes obligé de sanctifier le dimanche, sous peine de péché. Mais alors, si vous êtes une personne qui travaille pendant la semaine dans un bureau ou dans une tâche répétitive ou autre, et que le fait de ranger votre appartement est un véritable loisir et une véritable joie, voyez, pas forcément passer l'aspirateur, parce que je vois pas comment vous allez élever votre âme, mais ranger des affaires, passer la poussière, tout en mettant de la musique ou je sais pas. C'est du travail servile, parce que c'est du travail rémunéré habituellement, voyez-vous. Mais alors les mères de famille, elles vont laisser leurs enfants mourir de faim, rester dans leur saleté tout le dimanche. Mais voilà, il y a des activités, si elles libèrent votre âme d'une anxiété, d'une tristesse, d'une fatigue, vous pouvez faire quelque chose le dimanche qui ressemble à du travail. Mais voyez-vous, il faut avoir du discernement. Le quatrième commandement, c'est honorer son père et sa mère, et c'est supérieur. Le cinquième commandement, c'est de ne pas tuer, de ne pas blesser, de ne pas faire du mal, même par la langue. La médisance, dire du mal inutile et disproportionné et sans raison et sans nécessité, c'est la médisance. La calomnie, c'est du mal faux. Le sixième commandement, c'est la sexualité qu'on met dans l'amour matrimonial. Donc si on n'est pas marié, on canalise et on calme son instinct sexuel naturel et sa sensualité pour attendre le mariage. Alors il y a des personnes qui se marient pas Il y a des personnes qui sont divorcées, qui sont séparées. Donc, mais l'Église ne pourra jamais revenir sur la loi naturelle. Il n'y a de sexualité que dans le couple et à deux. On dit, mais on a des sensations seules parfois. Quand je ferai la conférence de Carême sur la pureté et la gourmandise, je dirais des choses un peu poussées pour que ça soit enregistré, pour que je n'ai pas à les redire éventuellement. Mais voyez-vous, je donnais un enseignement au diacre du séminaire d'Issy-les-Moulineaux ce matin, et donc avec eux j'étais très cru. Le 7e commandement, c'est de ne pas voler, effectivement, alors que le 10e commandement, c'est de ne pas désirer voler. Le 8e commandement, c'est de ne pas mentir, et donc c'est de ne pas dire quelque chose qui trompe l'autre, avec le côté jésuite, de dire quelque chose que l'autre sait pertinemment faux, donc on ne ment pas. Mentir, c'est dire quelque chose de faux et qui trompe l'autre, qui est contraire à la loi naturelle, car on doit communiquer des choses vraies, correspondant à notre intelligence et à l'intelligence de notre interlocuteur. La parole est faite pour transmettre du vrai. C'est mauvais de transmettre du faux. Mais si je vous dis, en plaisantant, « Ah, demain, j'ai fait un examen la semaine dernière et j'ai peut-être un cancer. » C'est vraisemblable, donc ça serait une très très mauvaise plaisanterie. Et, par contre, si je vous dis « Oh, j'en ai assez au bureau des mariages, il y a des à l'officialité avec toutes ces souffrances pour les nuitées de mariage, je vais faire une section de tueur à gage au diocèse de Paris. » Qui sera rémunéré pour tuer le conjoint gênant. Donc vous riez, donc vous ne me croyez pas. C'est pas vraisemblable. Bon, j'espère. Parce qu'un jour, à un moment donné, où les étudiants étaient un peu particuliers au foyer, j'ai dit, si vous ne vous réconciliez pas ou si vous ne faites pas la paix, le premier qui, parce qu'il y en avait trois qui n'arrêtaient pas de s'insulter, ce machin, tout ça, comment dire, je vous jette par la fenêtre. Et je le disais vraiment très sérieusement. Mais faussement. Enfin. Et bien, il y en a un des trois qui, plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, disait, mais vous vous rendez compte, hein, le curé a dit qu'il nous jetterait par la fenêtre. Donc il faut faire attention quand on fait. C'est pas un mensonge joyeux. Le mensonge joyeux est un péché. Hein, c'est un mensonge crédible, mais qui est une plaisanterie. Alors, humour noir, hein, voyez, je dis, ben, figurez-vous que j'ai appris la semaine dernière que j'avais un cancer. Hein, quand on n'a pas d'humour, on fait comme les parachutes, hein, on s'écrase. Et donc, voilà. 9e commandement, c'est ne même pas désirer la sexualité hors mariage, non pas le faire, 6e, mais ne pas le désirer, donc l'importance du mariage. Et 10e commandement, c'est ne pas désirer voler. Alors, cela, on le sait, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Ensuite, vous avez une autre manière d'examiner votre conscience, ce sont les vertus. C'est la prudence, la justice, la force, la tempérance, la foi, l'espérance, la charité. Alors, si vous remplacez les 10 commandements par cet examen de conscience, vous commencerez par la foi, l'espérance, mais la vertu de charité est tellement générale que c'est tous les péchés, alors bon. Mais par contre, la prudence, la justice, la force et la tempérance, c'est pour les intellectuels. Donc c'est pour ceux qui ont de la mémoire. La foi, c'est tous les péchés contre le premier, deuxième et troisième commandement. L'espérance, ce sont les péchés contre le premier commandement aussi, si vous voulez. C'est la providence divine. ou maugréer contre Dieu. C'est le deuxième commandement aussi. Foi, espérance. Manque de foi, doute, volontaire, entretenu, ou alors défiance vis-à-vis du futur. Dieu ne m'aidera pas, Dieu ne m'a pas aidé, Dieu ne m'a pas exaucé. Or, il a bien une chose qui est certaine, c'est que Dieu vous aime comme on n'a jamais aimé, et que tout ce qui vous arrive, même en mal, est permis et ne provoquera jamais votre damnation. Tout ce qui vous arrive et qui vient vous blesser de l'extérieur n'est pas assez écrasant pour vous empêcher de faire le bien et de pardonner. Donc on peut vous calomnier, vous mettre en prison, vous flageller, vous lapider. Les saints prient pour leurs ennemis. Ils peuvent parfois faire un constat, hein, mais c'est très délicat. Hein, la plupart des saints vont prier pour le salut de leurs ennemis. On va dire, toi, tel que t'es maintenant, tu iras en enfer. Mais je prie pour ton salut. Bon, il y a des saints qui meurent énervés. Mais bon, et qui peuvent avoir des paroles très lourdes. Mais en soi, voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose que nous devons craindre. C'est notre malice. Notre méchanceté. Ça fait obstacle à tout. Et même à la miséricorde de Dieu. C'est la seule chose que nous devons craindre. C'est la seule chose dont nous devons nous plaindre. C'est de notre malice. Sinon, Dieu nous pardonnera toujours si on lui demande pardon. Et Dieu nous donnera toujours des grâces. Et des grâces bien plus profondes que celles qu'on demande. Parce qu'il nous aime. Et donc quand on demande à avoir un examen, quand on demande à avoir un travail, quand on demande à avoir un tel logement, et qu'on ne l'a pas, eh bien c'est que Dieu veut quelque chose d'autre pour notre futur, et qui sera meilleur pour notre salut. Car Dieu nous aime et organise tout dans notre vie pour qu'on sauve notre âme, pour qu'on meure en ayant pardonné, reconnu nos torts, et tourner vers lui. Tout. Il dit, même si je rate pour la troisième fois cet examen. J'ai discuté avec une personne d'un âge très avancé. J'ose pas donner son âge. Parce que vous pourriez retrouver... Enfin, blablabla. Alors, disons qu'il avait 92 ans. Et il se souvenait encore d'avoir raté le concours de l'ENA, je crois. Et il parlait de ça encore, et c'est sa grande... Ah, si j'avais réussi... À 92 ans, il n'avait pas d'autres préoccupations. Ben non, non, non. Voilà, vanité des vanités, tout est vanité. La charité, c'est trop général. Ou la ferveur, par contre. La prudence. Qu'est-ce que la prudence? La prudence, c'est l'agir le meilleur pour une décision et une action. Les trois filles de la prudence sont le conseil, le jugement et l'action, l'exécution. Un homme prudent, c'est un homme qui prend conseil sur les moyens pour obtenir une fin. Je veux, réussir mon bac. Je vais acheter des livres, je vais ne plus sortir, je ne vais pas me disperser, réduire mes loisirs. Il y a plusieurs moyens. Mais parfois le meilleur moyen est celui-ci, celui-ci et celui-là, mais pas forcément de n'avoir aucun loisir. Parce que le délassement, lorsque vous êtes extrêmement fatigué de tension, de concentration, c'est un manque de prudence. De ne pas user de ce moyen qu'est le loisir. Ensuite, après le conseil, c'est la réflexion sur l'ensemble des choses qu'on peut faire pour atteindre un but, c'est la vertu, c'est le jugement. L'acte de jugement, c'est de prendre les meilleurs moyens après avoir fait la collection de tous les moyens. Alors l'exemple que je répète tout le temps, vous voulez aller à Marseille ou vous y allez à cloche-pied? À cloche-pied, j'insiste. Et là, ça va vous prendre très longtemps. Après la tendinite et tout ça, mais vous voulez à cloche-pied, bon, très bien. Donc environ 6 mois. Si vous voulez y aller à pied, mais en courant ou en marchant. Si vous voulez aller en vélo ou en trottinette, c'est à la mode en ce moment. Si vous voulez y aller en moto, à cheval, en voiture, en hélicoptère, en avion, en fusée. Avec, je sais plus, il y a une entreprise qui vous essaye de... Mais entre Paris et Marseille, peut-être que vous n'avez pas le temps d'aller dans l'espace et de revenir, enfin, je sais pas. Et c'est 250 000 dollars le voyage. Mais vous pouvez y aller en 10 minutes, du coup, peut-être, en fusée. Voilà. Ou en train, c'est plus conventionnel. Et donc, vous voulez vous réconcilier avec votre mère. Elle a 75 ans, vous en avez 45. Elle n'a pas assisté à votre mariage. Elle veut pas voir... vous voulez pas lui présenter ses petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, les moyens, c'est lui écrire, trouver quelqu'un qui va crever l'abcès, tout ça. Alors, vous voyez, la prudence, c'est une très grande vertu. C'est quel moyen pour obtenir un acte, choisir les meilleurs moyens et les mettre en exécution. J'ai manqué de prudence, j'ai giflé ma mère. Oh, vous avez aussi manqué de piété, mais on y arrive. Prudence. Ensuite, la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, on ne vole pas, on retrouve les 10 commandements. La prudence, c'est une vertu tellement générale qu'elle peut vous empêcher de voler, de mentir, qui vous permet d'honorer justement vos parents. Et la vertu de justice vient avec la vertu de prudence pour vous dire comment remercier quelqu'un, comment être fidèle en amitié, comment être juste, comment rémunérer quelqu'un qui vous a rendu un service. Et ça, c'est par rapport au vol. Comment respecter votre institutrice, votre professeur, vos parents, parce que la vertu de piété est une fille de la vertu de justice. Comment respecter Dieu? Donc là, c'est le 2e commandement dans la vertu de justice. Ensuite, vous avez la vertu de force. La vertu de force est une vertu de volonté qui résiste à quelque chose de contrariant ou au contraire d'exaltant. Une énergie, l'agrédit, hein, l'agressivité bonne, la nervosité bonne, la sainte colère est dans la vertu de force. Mais la patience, le soustinéré, est aussi dans la vertu de force. Parfois, il faut savoir ne pas se mettre en colère, et parce que c'est beaucoup plus fort que de se mettre en colère et de perdre ses moyens. C'est la vertu de force. Là, c'est le 5e commandement qui est modéré par la vertu de force. Ensuite, vous avez la vertu de tempérance. C'est par rapport au 6e et 9e commandement, mais aussi un peu 10e commandement, puisque c'est la sensualité et le goût, la gourmandise, mais aussi le désir de posséder. Quand vous commencez, quand vous êtes prêtre, à avoir 8 aubes, il y a 12, alors où vous ouvrez une église, mais non, ça ce sont les miennes. Donc, pour les fêtes de solennité, première classe, deuxième classe, troisième classe, ferry, donc vous en avez déjà 5, c'est pas mal. Mais vous doublez chacune, parce qu'il y en a une qui est au sale pendant que l'autre, machin. Donc vous en avez 8. Voyez. Ou alors vous vous faites offrir des chasubles, et à la fin vous en avez autant qu'une cathédrale. Bon. Ça manque de tempérance, parce qu'en fait, le désir de posséder, voyez. Et c'est matériel. Ensuite, eh bien vous avez les béatitudes.